pied sur terre, Sonia Kronlund.
Personne n'ose provoquer l'avenir. Faudrait être fou pour provoquer l'avenir.
J'ai très peu de souvenirs. Cela me manque. Alors je cherche dans les ténèbres. J'essaie de leur arracher le plus de souvenirs possible. De temps en temps, très rarement, je me rappelle brusquement quelque chose dont je ne me souvenais pas. Cela me fait mal, mais je suis heureuse. Cela me rend follement heureuse. Ainsi parle Maria Wojtechonokok, déportée en Sibérie, dans La fin de l'homme rouge, le livre extraordinaire de la prix Nobel Svetlana Alexievitch. Elle continue ensuite. « Je suis l'esclave des mots, j'ai une foi absolue dans les mots. J'attends toujours des mots de la part des gens, même des inconnus. Surtout des inconnus. Avec des inconnus, on peut encore espérer quelque chose. J'ai l'impression d'avoir moi-même envie de parler. Alors je me décide, je suis prête. Mais quand je raconte quelque chose à quelqu'un, ensuite il ne reste plus rien. Je ne retrouve plus rien. Ça laisse un vide, un trou. Je perds ses souvenirs. Et je dois attendre longtemps avant qu'ils reviennent. C'est pour ça que je ne dis rien. Je retourne tout cela à l'intérieur de moi. Je creuse des passages, des labyrinthes, des terriers. » Aujourd'hui, dans Les Pieds sur Terre, deux souvenirs de guerre, de peur et d'horreur remontent de ces labyrinthes, de ces passages intérieurs, de ces terriers. L'un vient de France, l'autre vient du Cambodge. Ils ont été confiés à Stéphanie Labadie. C'est jusqu'à 14h dans Les Pieds sur Terre sur France Culture.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
C'était en 1944, c'est-à-dire au moment du débarquement des Alliés. Nous vivions en Bretagne, en Ille-et-Vilaine, depuis déjà plusieurs années, puisque mon père avait dû quitter la région parisienne parce que nous avions des soucis. La Gestapo était à sa porte, enfin à la nôtre. Hein, mon père était communiste, hein, il faut vous le dire. Donc il avait plein de listes noires contre lui et donc il fallait absolument se cacher. Mon père a cherché à nous mettre à l'abri et on a trouvé une petite annonce, je crois, dans une boutique où il y avait une personne qui avait une maison à louer en Ille-et-Vilaine, en Bretagne. C'était le village de Saint-Saturnin en Pléchâtel. Nous étions dans un tout petit trou de Bretagne, donc on s'est retrouvés tous les trois dans cette petite maison, sans aucun confort, ni eau courante, ni électricité. Le sol était en terre battue. Tous les trois dans la même pièce, une table, un lit, le mien, celui de mes parents, et une porte fermière, c'est-à-dire qui s'ouvrait en deux parties. Et comme il faisait très beau et très chaud, on laissait cette porte ouverte puisqu'il n'y avait pas de fenêtre. Et devant, on avait mis une sorte de rideau. Je me souviens qu'il était coloré, ce rideau, qui laissait passer l'air en même temps. C'est ce qu'on appelle maintenant, je crois, une moustiquaire. Donc mes parents étaient allongés sur leur lit, moi dans le mien. C'était un après-midi d'été, il faisait chaud, donc nous faisions une petite sieste et d'un seul coup, j'ai entendu des bruits très violents sur le petit chemin empierré qu'avait fait mon père qui allait de la route, c'est une petite route de campagne, jusqu'à notre porte d'entrée. Et c'était violent comme bruit, c'était les dalles, enfin les pierres bougeaient d'ailleurs sous le poids des hommes. Et c'était un bruit qui était extrêmement désagréable et qui faisait peur. Pour moi, c'était des bottes parce que ce que j'avais entendu autour de moi, et puis bon, j'en avais aperçu de loin, c'était des Allemands. Je pense que je comprenais que j'allais mourir, quelque chose comme ça. Mes parents, je ne sais pas ce qu'ils se sont dit entre eux. J'ai même l'impression qu'ils n'ont pas échangé, que ça a été comme une évidence qu'il allait arriver quelque chose. Et puis, maman, elle a essayé. Mais j'ai pas de parole de maman, de rassurante, j'ai rien gardé. Simplement qu'elle est restée près de moi. Mais autrement, entre papa et maman, je n'entends pas du tout d'explication ou d'inquiétude. Je pense que on était dans un non-dit total, parce que c'était quelque chose, comme quelque chose qu'on attendait depuis longtemps, et puis qui arrivait. C'est ça. Et moi, c'était terrible. Et de surcroît, mon père a dit, ça y est, je suis fait. Et donc là, c'est vrai que j'étais terrorisée dans mon lit. Je pense que mes parents l'étaient aussi, mon père encore plus. Et d'un seul coup, donc la moustiquaire a été soulevée par un homme qui n'était pas très grand. Certainement pas très beau, qui portait des lunettes, plutôt chétif, qui avait un pistolet à la main et qui a décrété qu'il fallait à boire et à manger tout de suite. Mon père a dû avoir très très peur à ce moment-là. Cette peur, elle était communicative. On était dans quelque chose d'affreux. Hein. Il a cru que c'était une compagnie allemande qui arrivait. Or, en réalité, quand ils se sont approchés, on s'est aperçu que c'était des Américains. Enfin, moi, j'ai pas compris tout de suite est-ce que je faisais bien la différence? Certainement, parce que ceux-là n'étaient pas habillés en noir. Ils étaient habillés en kaki. Hein, et ils n'avaient pas les mêmes casques sur la tête. Donc, ils ont pénétré dans la maison. Mon père s'est vite levé, rhabillé, etc. Alors, ils étaient ou 16 ou 20. Et je sais qu'ils étaient nombreux, car leur objectif, hein, puisqu'il s'agissait d'une dénonciation faite par le monsieur au pistolet, qui les avait conduits jusqu'à nous, en leur disant à ces gens que nous étions... en somme des collabos, et que nous cachions une vingtaine d'Allemands chez nous. Et donc, ils ont tout de suite compris dans quel piège ils étaient tombés, à savoir qu'ils étaient emmenés là par quelqu'un qui était quand même, qui avait sans doute pas toute sa tête. Hein. Bon. Mais c'est vrai que s'il était là, c'est parce qu'à l'époque, il y avait des primes qui étaient octroyées à des gens qui dénonçaient leurs voisins. Mon père lui dit, attendez, je me lève déjà. Hein. Il garde son sang-froid, mon père, quand même. Et là, mon père a dit, mais comment, moi, cacher des Allemands, mais voyons... Je suis ici, moi, cachée, parce que justement, je suis recherchée par la Gestapo. On vit ici comme des clandestins. On n'avait pas de ticket de ravitaillement, on n'avait rien. Et donc, vous pensez bien que je ne cache pas d'Allemand. Au contraire, je me cache. Et à ce moment-là, il a dit, d'ailleurs, je suis communiste. Et ça n'a manifestement pas plu au chef, je ne sais pas quel grade il avait, cet homme. Ce dont je me souviens, c'est que c'était un gros balèze qui lui a donné un grand coup dans le dos de sa mitraillette qu'il avait à la main, donneur de dire « bon, ça va comme ça, tais-toi, raconte pas ta vie ». Mon père a dit « je vais vous emmener quelque part où on va vous dire, on me connaît bien, on va vous dire pourquoi je suis là, les gens me connaissent, les gens qui vont pouvoir vous confirmer ce que je suis et ce que je pense. Ils habitent une ferme qui s'appelle la Chapelle de Bagaron et je vais vous y conduire ». Et donc tout le monde est parti avec mon père, toujours quand même bien serré parce qu'il était quand même toujours suspect. Hein. Donc ils sont partis jusqu'à la ferme. Moi, je suis restée avec maman à la maison et nous sommes gardées toutes les deux par un soldat américain. Il m'a pris sur ses genoux. Et il me disait « Pauvre Monique, pauvre Monique, pauvre Monique ». Et je trouvais que c'était pas du tout rassurant de me dire « Pauvre Monique », parce que je disais « Mais pourquoi il me dit « Pauvre Monique », c'est mon papa est parti, il est en train de me plaindre, ça veut dire quoi ça ? Ça veut dire que peut-être je vais peut-être pas revoir mon papa hein ?» maman était à côté, je voyais bien qu'elle était pas dans son état normal, qu'elle-même, elle était, je pense, terrorisée. Ça a été certainement des moments. Donc, ça a été des moments certainement très très durs. Et je n'en ai jamais reparlé, même avec maman. On en a parlé peut-être une fois, deux fois, mais ça n'a jamais été. C'est jamais sorti. Et quand enfin on a entendu à nouveau les pas revenir, comme on l'avait entendu la première fois, là cette fois c'était des pas qui étaient libérateurs, hein. Et donc ils sont revenus, ils ont ramené mon père, lequel je me l'a dit après quand même, c'est une des rares choses qu'il m'a dit, il a exigé qu'on le reconduise jusqu'à sa maison. Et puis il y avait de la joie. Là, il y avait de la joie, c'était clair. Papa était soulagé, souriant. Je me souviens de quelque chose de rayonnant. Et donc, maman, elle a offert à boire. Ils ont demandé de l'eau. Donc, maman leur a donné de l'eau. Il n'y avait que le seau, avec la louche, on donnait à boire. Et à ce moment-là, ils sont repartis.
France Culture, les pieds sur terre.
La trace que j'ai, et ça je la traîne depuis toujours, c'est que je pense toujours qu'un jour, quand je serai très vieille, alors que je ne pourrai plus du tout me défendre, c'est ça que je vois, eh bien que cette chose va arriver à nouveau. Et là, il va m'arriver les pires choses. Je serais coupable d'être ce que je suis, en fait, de savoir, bon, parce que j'ai été membre du Parti communiste, j'ai été militante CGT pendant, bon, un certain nombre d'années, quand j'étais plus jeune, hein. Je suis toujours restée avec l'idée que tout ça était inscrit quelque part, et que donc, si jamais un système du même acabit que le régime de Vichy revenait, ben, ça allait me tomber dessus, et puis voilà, et donc cette fois, j'y couperai pas. En plus, j'aurais plus ni père ni mère pour veiller sur moi, et qu'on va me faire des choses abominables. C'est rester dans ma personnalité. Je crois que c'est ça, en fait.
Je m'appelle Meas, je suis cambodgienne et j'ai grandi au Cambodge depuis je suis née jusqu'à l'âge de 14 ans. J'avais en avril 1975, j'avais 9 ans et demi et j'étais une enfant qui vivait à la campagne à Pursat, en province, à je crois à peu près 300 km de Phnom Penh. Dans une maison en bois, au bord d'une rivière, la rivière qui descend jusqu'à Tonle Sap, le grand lac du pays. Et on vivait avec mes parents, mes deux sœurs, ma grand-mère et des cousins et cousines. On jouait beaucoup la journée pendant que nos parents travaillaient. En tant que propriétaire terrien, parce qu'il cultivait le riz et les patates douces et puis aussi les arbres fruitiers. Moi, j'allais très peu à l'école à cause des événements, les bombardements, la guerre du Vietnam. Et souvent, on jouait avec les cousins et on courait dans les tranchées quand il y avait un avion survolé la maison. Et quand on avait chaud, on allait souvent plonger dans la rivière, on se baignait et on revenait et on restait jouer. Et des fois, on faisait la sieste souvent dans le hamac. C'était la belle époque. Moi, j'étais une petite fille qui était un peu assez curieuse d'ailleurs. Et j'aimais beaucoup lire à haute voix, voilà. Et puis écouter les chansons, la musique aussi. Et les journées se passaient comme ça. Ma grand-mère était là à nous garder. Et les parents écoutaient un peu la radio. Ils savaient les événements, mais nous, on ne comprenait rien. Ce que j'ai entendu dire, c'est qu'il faut travailler pour la patrie. J'arrivais pas à comprendre parce que on avait le travail, on pouvait vivre, on pouvait manger. Et puis maintenant, qu'est-ce que c'est qu'une patrie? Je peux pas vous dire. Hein. Moi, j'avais pas compris que c'était des ce qu'on appelle des Khmer Rouges. C'était des Cambodgiens, quoi, comme nous, quoi. Jusqu'au jour où, quelques semaines plus tard, les Khmer Rouges sont arrivés dans notre province, dans notre village. Et la première fois, j'ai pas vraiment vu les Khmer Rouges arriver, parce qu'on était barrés par les grands, hein, qui couraient les accueillir en tant que héros, libérateurs. Donc, ce qui fait que je trouvais qu'il y avait un mouvement de joie, en fait. Nos parents étaient très très calmes. Et moi, je sais que tous les enfants sont groupés derrière les parents. C'était une journée comme les autres. Hein. Il faisait déjà assez chaud le matin à 9h. Hein, le soleil se pointait déjà. Et on a mangé des fruits et on n'avait pas fini notre assiette. Et ensuite, j'ai vu les parents se lever et puis préparer nos affaires. Voilà. Quand j'ai vu les Khmer Rouges pour la première fois, bien sûr, j'ai eu peur, mais je me sentais triste. Peut-être quelque chose qui va changer et puis qui ne sera plus comme avant. Les Khmer Rouges, c'est typique, c'est qu'ils s'habillaient tout en noir. En noir avec les sandales noires aussi et avec une écharpe rouge. C'est pas l'image de soldats classique quoi, en fait. Hein. Voilà, ils sont arrivés, ils sont même pas de rangers, rien. Ils représentaient quand même beaucoup d'autorité dans leurs yeux. Ils devaient nous faire obéir quoi. Alors à partir de là, de toute façon, c'est l'exode hein, parce que tout le monde se préparait et tout le monde partait. Les autres avaient le droit d'amener leurs enfants avec eux. En tout cas, ils partaient ensemble. Et moi, je suis pas partie parce que ma grand-mère, comme elle était seule, elle voudrait que je reste avec elle. C'était ça. Et après, mes cousins sont partis et les voisins, pareil, ils avaient chargé leur vélo. Il y en a qui a chargé leur moto et puis avec une remorque. Et les enfants petits étaient portés. Et il y avait des vieillards aussi qui partaient avec avec leurs enfants. Et tout ça se passait, mais vraiment dans le calme, pas dans la menace. Mais je crois que tout le monde a peur. Et tout le monde était triste le lendemain pour la séparation. Parce que on leur a pas dit que où ils vont vraiment, dans quel endroit. Et est-ce qu'ils vont un jour venir? Est-ce qu'on va un jour se retrouver? En voyant partir mes parents, en même temps les autres, moi je crois que j'étais de plus en plus dans les bras de ma grand-mère. Et puis ma mère qui se retournait de temps en temps et sans un mot, mais voilà. Et un jour, les Khmer Rouges sont revenus. Et j'ai vu qu'ils avaient des jeunes filles. J'étais en âge d'aller travailler. Donc à ce moment-là, ils m'ont séparée de ma grand-mère. On était peut-être 15 ou 20 enfants avec des soldats. On est partis, les soldats nous ont amenés à Schwarzdorf. C'est dans un village, une cinquantaine de kilomètres de là où je vivais avant. C'était un village, 1500 personnes, je crois, maximum. On ne se voyait pas, on ne se fréquentait pas. On avait nos responsables qui nous interdisaient de parler, de discuter. On était surveillés, on était espionnés aussi. Quand quelqu'un parlait, ça a été, on ne le voyait plus. Et notre travail consistait à planter et puis à récolter le riz, à élever les digues et creuser des canaux d'irrigation. De 4 heures du matin jusqu'à midi, et puis 1 heure, 6 heures, et 7 heures, 11 heures du soir. Ce qu'on pensait, c'est sauver sa vie, trouver de quoi manger tous les jours, et accomplir notre tâche. On disait tout le temps, oui, oui, oui. Le fait de dire oui, on n'est pas contraint à répondre à d'autres questions. Le pourquoi, camarade, tu n'obéis pas et tu ne dis pas oui et tu n'acceptes pas l'ordre qui vient d'en haut. C'était ça. ça m'enlève la peur. Et on n'avait personne. Personne ne venait nous consoler. Je suis restée là-bas pendant 4 ans. Un jour, j'étais au travail et j'avais ma chef de groupe qui me disait, camarade, il y a votre mère qui est là, qui vient vous rendre visite. J'étais presque choquée parce que, ma maman, je suis tombée dans ses bras et puis j'ai pleuré, j'ai hurlé de... J'ai pleuré. Après, ma maman a eu la permission de m'emmener avec elle pendant 3 jours. Et avant de partir, je me souviens, le chef du village et tous les responsables étaient là, qui me répétaient, camarade, si au bout de 3 jours vous revenez pas, nous vous enverrons les soldats pour venir vous chercher. Mais on n'est jamais retourné dans ce camp. Elle nous a cachés. Elle a pris énormément de risques pour nous. Et en janvier 1979, on a appris que les Vietnamiens sont arrivés à Phnom Penh. Et on a décidé de partir vers la Thaïlande dans la nuit, de prendre la fuite vers la liberté. Mais on partait à pied avec peut-être 2-3 jours de riz à travers la jungle. On était sur la route avec les gens. On était plusieurs, moi avec ma maman, mes deux sœurs et mon petit frère qui avait 2 ans. Et on s'enfonçait dans la forêt. Et il faut faire très très attention parce que on a peur de marcher sur les mines antipersonnelles et tomber dans des tranchées couvertes de feuilles qu'on voit pas. Dans tout le trajet, on était complètement envahi par la peur de l'inconnu, du silence, des Khmers rouges qui arrivent, qui massacrent tout le monde, ou des animaux sauvages, ou quelqu'un devient fou. Quand la nuit tombe, on voit rien parce que la forêt est tellement épaisse et on était démunis physiquement, matériellement, moralement aussi. On était qu'entre nous et puis entre nous, on a rien. Même pas une chanson, même pas un poème, même pas un livre, rien. Le jour où on a franchi la frontière thaïlandaise, et ça a été... Je me souviens, le soleil était déjà un peu bas. Et les villageois, ils avaient des chaussures, des tongs en couleur. Et puis on sentait l'odeur de la cuisine et tout. Ça a été... Tout d'un coup, quand j'ai vu la Thaïlande et puis Médecins Sans Frontières, on était en sécurité, si vous voulez. On nous enlevait, je sais pas, toute plaie, toute blessure, toute douleur dans notre tête, dans notre corps, dans notre cœur. Ça m'a tellement éblouie que... J'arrive à cet instant à laisser tout derrière moi. En septembre 1983, j'ai eu la chance de rencontrer une famille française qui m'ont fait venir. On est parti de la Thaïlande avec toute la famille, mon papa, ma maman, moi, mes deux sœurs et mon jeune frère. Et ça, grâce à une famille française qui nous ont fait venir. Voilà, au bout de 3-4 ans, j'ai rencontré Éluard, Prévert, Verlaine, Rimbaud, Hugo. Ça m'a beaucoup aidée. Ça m'a beaucoup aidée jusqu'à présent et à me construire. Quand je reparle des épisodes, je ne revis pas la peur, moi. Je crois que je revis un peu de douleur. Voilà. La douleur, elle part pas. Il paraît que souffrir passe, mais avoir souffert ne passe pas. Pour moi, la peur est juste un passage. je n'ai pas laissé le Cambodge derrière moi, mais j'ai laissé au Cambodge ce qu'il y avait de mal, quoi. Voilà. D'avoir vécu pendant 4 ans la peur, moi je crois que c'est une deuxième chance d'affronter encore d'autres peurs. Peut-être. Pour le moment, j'en ai pas.
Aujourd'hui encore, c'était Les Pieds sur Terre, souvenirs de guerre, un reportage de Stéphanie Labadie, réalisé par Alexandra Malka, Sandrine Chaperon, c'est l'attachée de production des Pieds sur Terre. Merci bien sûr aux deux femmes qui ont accepté de nous raconter et de nous dire les mots de leur guerre. Vos réactions, des commentaires, des suggestions, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, page Facebook et compte Twitter vous attendent. N'hésitez pas non plus à vous abonner à notre podcast. Vous pourrez ainsi nous écouter ou nous réécouter autant que vous le souhaitez.